affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Wakarimasu, Jan.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'étoiles plein les yeux, c'est votre magazine de cinéma sur Transistor. Nous revoilà cette semaine pour parler d'un film italien, Heureux comme Lazzaro d'Alice Rohrwacher, dont nous parlerons Mathilde Occitane et Thomas. Et puis ensuite, nous partirons avec Mathilde et Ellie du côté du dernier film de Pierre Salvadori, En Liberté. Enfin, on terminera comme d'habitude avec nos conseils de sortie au cinéma pour cette semaine. La toile, donc, Heureux comme Lazzaro, et les yeux, ce sont ceux de Mathilde Occitane et Thomas. Pardon, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Non, dico la scuola.
La scuola è roba per signori.
A scuola ci vanno tutti.
Avanzare! Avanzare!
Cercavo gli altri. Si sono trasferiti?
È da tanto.
Ma dove andate?
In città.
Lazzaro!
Tu vieni con noi, vero?
Certo. Perché non c'è più nessuno all'Inviolata?
Un grande inganno per celare ogni mutamento sociale a questa povera gente e riduzione in schiavitù di 54 contadini, tra cui donne.
Alors, Heureux comme Lazzaro, Lazzaro Felice, qu'est-ce que ça raconte, puisque je n'ai pas vu le film, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tiens, Thomas.
Oh bah, c'est-à-dire que Lazzaro, Heureux comme Lazzaro, bah, c'est l'histoire
De Lazzaro.
De Lazzaro, non, d'un groupe de paysans qui, pendant des années, en fait, va être exploité par une marquise, parce qu'ils ont été coupés à un moment par une inondation, et ils vivent dans un coin reculé de l'Italie. Et en fait, la marquise leur fait croire qu'on est encore à l'époque du servage. Et du coup, elle les exploite voilà, comme ça, en les maintenant dans un état voilà, de... À un moment, elle le dit, hein, c'est des bêtes pour elle, donc voilà, elle les maintient bien, là. Et il y a un jour où cette escroquerie éclate au grand jour, et sur fond de... Il y a plein de choses qui se passent, en fait, à un moment... mais je sais pas comment dire ça, après. Bah, le moment où, où il tombe... Non,
mais laissons planer le suspense.
Ah ben bah, je veux bien.
Qu'est-ce que tu en as pensé, Thomas?
Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'est-à-dire que c'est un film qui raconte plein... Enfin, où il se passe pas mal de choses, qui va dans plein de directions et qui finalement, bah, on comprend pas trop vraiment le sens global. Il y a tout le début qui est vraiment dans cette présentation de l'état de nature. Enfin, c'est même pas un état de nature, c'est un genre de paradis perdu, mais qui en fait en est pas un parce qu'il est placé sous le signe de l'exploitation. Et après, on change d'univers avec un truc beaucoup plus urbain, mais on reste dans l'exploitation. Donc je sais pas, un genre d'odyssée du malheur de ces pauvres gens exploités qui voguent de terre en exilé, en fait, parce que leurs terres leur appartiennent jamais. Et au milieu, ce personnage de Lazzaro, un peu fantastique, un peu reçoit les simples d'esprit, des choses comme ça,
quoi. Et alors, c'est bien?
Non, enfin, je sais pas, il y a eu des longueurs, non, mais il y a eu quand même des grosses longueurs, il y a des moments assez jolis, il y a un moment de rupture que j'ai bien aimé, que je vais pas spoiler pour que, voilà, ce soit vraiment bien, pour que la rupture, comme moi je l'ai senti, soit présente, mais non, moi j'ai trouvé ça long, et je comprenais pas où ça allait, non, j'ai pas trouvé ça transcendant, moi, en fait.
Occitane?
Alors... Moi, j'ai eu l'impression que ce film, voilà, qui tourne autour de ce Lazzaro, au début, on a l'impression que c'est une espèce d'idiot du village que tout le monde exploite, qui est tout au bout de cette chaîne de l'exploitation. J'ai eu l'impression que ce film essayait de valoriser cette figure-là, d'en faire une espèce de figure mythique et sainte qui inspirait un petit peu leur émancipation aux paysans, un peu dans un truc, dans un délire un peu pasolinien, c'est-à-dire on va rendre les mythes aux opprimés, et c'est là qu'ils vont prendre conscience de leur caractère aliéné pour s'émanciper et pour essayer de fonder quelque chose de nouveau, de refaire société ensemble. Alors voilà, j'ai eu l'impression que l'intention de ce côté-là était assez claire, mais que c'était des grosses ficelles un petit peu qui l'attendaient de partout, avec des choses qui, peut-être dans le cinéma de Pasolini par exemple, c'est cohérent, mais là en l'occurrence ça paraît un peu gros, un peu daté, un peu étrange comme ambiance. Même s'il y a de très belles images, de très beaux plans, ça m'a pas convaincue.
Mathilde.
En effet, pour juste rebondir sur ce que tu avais dit, il y a effectivement deux parties dans le film. Donc une partie, je suis super d'accord quand tu dis une un peu légendaire de la vie paysanne telle qu'on se l'imagine, un peu archétypale. Et l'autre partie qui constitue un peu le prolongement et en fait l'actualisation de cette exploitation paysanne dans la ville urbaine contemporaine. Et on a beaucoup critiqué ces deux parties en disant que la première partie est plutôt réussie et la deuxième un peu poussive. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est dans la confrontation de ces deux parties-là que le personnage de Lazzaro prend toute son ampleur sacrée. Et c'est quand même, il me semble, le sujet du film. C'est vraiment la sainteté de Lazzaro et un peu comment elle se définit. Donc le saint qui traverse les époques d'une bonté et d'un caractère constant, quel que soit l'espace dans lequel il prend part, quoi. Donc... et finalement, donc, c'est ce qu'on retrouve dans la... Ouais, c'est... Pardon, je m'embrouille, mais ces deux époques-là révèlent, en fait, je pense, ce qui fait la jonction entre la vie, le temps de la vie d'un saint et les siècles qui succèdent à sa mort et dont il reste le témoin, c'est-à-dire révéler une certaine nature humaine. Et c'est là où le film est le plus noir. On a une nature humaine complètement... mangé par une méchanceté banale et cette pulsion à l'exploitation perpétuelle, quoi. C'est les plus riches exploitent les riches, qui exploitent les pauvres, qui exploitent les plus pauvres, qui exploitent peut-être l'idiot, mais justement l'idiot, c'est ce qui fait la rupture dans cette chaîne, et c'est en fait le personnage de Lazzaro. Qui du coup est très très éloigné de cette pulsion, de cette soif de soumettre et d'exploiter, et qui a vraiment, c'est le seul personnage qui a confiance dans l'autre. Et ça me dérange un peu quand on parle de Lazzaro comme d'un idiot, parce qu'en fait l'idiotie dans ce film, c'est finalement avoir confiance, pas douter du tout, et peut-être avoir une certaine foi, religieuse ou pas, là n'est pas franchement l'intérêt, mais on a une humanité complètement... désillusionné surtout, et qui fait jamais confiance à l'autre, qui est complètement sceptique et toujours perfide. Et il y a toujours une tension permanente. Quand tu dis, tu sais, une ambiance un peu surnaturelle, étrange, on a toujours, même quand les personnages semblent a priori pas dans un affrontement direct, mais on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose, une idée en arrière-fond, une mauvaise intention. Enfin, on n'arrive jamais à se fier au personnage, sauf à celui de Lazzaro. Et plus qu'une forme de poésie qui serait liée au visage éthéré de Lazzaro ou à sa présence rassurante comme l'unique purement bonne, quoi. Et plus qu'à... la dimension surréaliste du film, j'ai l'impression qu'il faut mettre surtout l'accent sur cette noirceur. Et même la foi en elle-même disparaît complètement, même s'il y a l'image du saint avec Lazzaro. Il meurt deux fois, il meurt la première fois, entre le moment où il est vivant et le moment où il devient un saint. Et il meurt à la fin aussi, bon, je vais spoiler le film, mais en l'occurrence, c'est ce qui permet aussi de comprendre un peu son intérêt, quoi. La fin de tout, quoi. Et même, on arrive à une foi qui peut même plus reposer sur ses seins puisqu'on les tue. Donc, c'est assez déprimant. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a quand même des choses à prendre de ce film-là, même si, bon, j'ai pas été non plus transcendée totalement.
Donc, un film sur la noirceur du monde qui envahit un paradis perdu. Ça peut rappeler ce show télévisé qui arrivait dans Les Merveilles, le précédent film de la réalisatrice. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Moi, je l'avais vu, mais je ne l'ai plus bien en tête. Mais j'ai trouvé, quoi qu'il en soit, je ne me souviens plus de la fin des Merveilles. Mais je me souviens pas d'avoir eu un film aussi... aussi désillusionné jusqu'au bout, quoi. Et en fait, ce qu'il y a de plus frappant, c'est que c'est dans la confrontation des deux époques, que ce soit il y a 5 siècles ou aujourd'hui, la nature humaine reste ce qu'elle est, profondément mauvaise, quoi. C'est en tout cas ce qui me semble être le sujet du film.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Lazaro, il est... Enfin, tu dis, c'est une présence rassurante, une présence qui semble un petit peu émerger de tout ce marasme de la nature humaine. Mais je suis même pas sûre que sa sainteté ait tellement de sens, puisque voilà, il l'est malgré lui un peu par déficience d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il est, il n'est pas capable de faire le mal, il n'est pas capable de calcul, mais c'est parce qu'il n'en est pas capable qu'il est sauvé de cette méchanceté généralisée, de ce mal un petit peu qui est devenu un mode de vie, une manière d'avancer, c'est-à-dire une... Et finalement, il y a peut-être quand même une lueur d'espoir à la fin du film, avant que Lazaro ne disparaisse. Ils se promènent dans la ville tous ensemble, les paysans donc, qui ont perdu leur terre et enfin, qui ont perdu leur mode de vie, qui sont totalement inadaptés à cette nouvelle société. Ils errent dans la ville et puis ils se font même rejeter d'une église. Bon, alors là aussi, grosse ficelle, ça fait partie des grosses ficelles que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, du coup, la musique de l'église ne fonctionne plus, l'orgue ne fonctionne plus, et la musique se met à suivre le groupe des paysans, et d'un coup, ça leur donne une espèce d'inspiration, un moment de révélation. Ils disent « Ah, mais si on retournait sur nos terres et qu'on devenait une espèce de... Enfin, qu'on allait cultiver notre jardin tous ensemble... » Voilà, là, il y a cette vague lueur d'espoir, mais bon, on n'a pas l'impression que ça aboutisse vraiment quelque part, et j'arrive pas à savoir quoi en faire, quoi. Est-ce que c'était... Ça faisait partie de ces scènes un peu clichés, de rêves un peu étranges, ou est-ce que ça fait sens avec le reste du film qui effectivement est très pessimiste, mais on ne comprend pas trop où nous mène ce pessimisme, justement, je trouvais.
Très bien, eh bien on le recommande donc peut-être pas forcément, encore que pour les amateurs de pessimisme. Si, Mathilde, toi juste pour l'expérience.
Non, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut pas aller le voir. Il y a quand même des choses à prendre dans ce film.
Belle façon de conseiller un film. On vous laisse vous faire votre avis, du coup, chères auditrices, chers auditeurs. Et tout de suite, on continue avec le coup de projecteur de la semaine. Il est consacré au nouveau film de Pierre Salvadori et il est signé Élie et Mathilde. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Donc oui, aujourd'hui, on va vous parler du film de Salvadori En Liberté, en retraçant un peu les grands thèmes du film et au gré d'entretiens et d'extraits des musiques du film. Donc on laisse peut-être Élie vous parler du propos du film d'abord.
Et oui, alors pour le résumer, sans spoiler, c'est l'histoire d'une femme flic donc, qui est jouée par Adèle Haenel et qui apprend que son mari défunt avait mis en prison pour couvrir ses petites magouilles un innocent, incarné par Pio Marmaille. Ce dernier va être libéré et va décider de devenir en quelque sorte le coupable qu'on a voulu faire de lui. Et une sauvage liberté va finir par le gagner jusqu'à ce que la flic décide de l'aider.
Donc on a pu découvrir le film en avant-première au tout début du mois d'octobre au cinéma du Comédia. Et on a rencontré à cette occasion donc Pierre Salvadori et Pio Marmaille. Et on vous laisse écouter un petit extrait pour commencer notre chronique et vous faire sentir l'émotion avec laquelle Salvadori présentait son film.
Le plus libre et le plus joyeux, le plus heureux, le plus fourni, le plus total possible avec des bagarres, de l'émotion, de l'amour et de la poésie. Je ne sais pas si j'ai réussi. Je voulais faire un film un peu total, coloré et vivant. J'espère qu'il saura vous toucher. J'ai dit un jour que je rêvais de faire un film qui procure presque un plaisir physique à être regardé. J'espère que par moment on a réussi à...
Ouais, c'est le cas, vraiment.
Faire ça, merci. Ouais, non, mais il ne faut pas dire ça. Parce que...
Ouais, si, on peut le dire, là.
Voilà, en tout cas, soyez libres de pleurer ou de rire. Et j'espère que vous passerez un très bon moment et je serai vraiment ravi d'en parler avec vous après. Voilà. Et encore une fois, c'est... un bonheur d'avoir une salle, et merci à vous d'avoir une salle aussi pleine. Pour moi, c'est...
Adèle, tu veux dire quelque chose ? Oui, écoutez, quand je vais garder ma voix de Marmaille, mais mon cerveau est Haenel. Non, j'ai pas compris, en fait, c'est l'ouverture de la salle, ce soir ? Non, j'ai parfaitement saisi. Très bon film à vous, à tout à l'heure. Ciao, je vais manger une pancette.
Merci. Et voilà, donc vous avez eu le petit extrait qui témoignait bien de l'ambiance qu'il y avait dans la salle ce jour-là. Donc dans un premier temps, on a décidé de vous parler du plaisir physique du film, qui est quand même une thématique qui revient souvent lors des entretiens de Salvadori. Vraiment sa volonté de créer un vrai plaisir physique, qui passe souvent par un rythme effréné, comme un peu comme un train lancé à toute vitesse, qui passe aussi par les détours et les imprévus de la narration, une constante instabilité qui met le public dans un état d'abandon, presque une ivresse de rire, mais pas que, une ivresse du mouvement, de l'élan. C'est vraiment ce que Salvadori voulait. Il cherche aussi une adhésion totale du spectateur à son film, à ses situations, ses histoires d'amour un peu contrariées et jamais décevantes pour le public. Une adhésion qui ne s'explique pas uniquement par une soif un peu basique de gags et d'action, mais une adhésion égale, autant dans les moments de franc délire que dans les moments un peu plus suspendus, de subtile fragilité et de vraie poésie.
Oui, c'est vrai. Et puis tout ça, surtout, Salvadori, il le conçoit, il le formule avec une lucidité et un recul qui est assez exceptionnel. On l'a vraiment ressenti lors de l'avant-première. C'est un cinéaste qui est capable de nous formuler, d'expliciter et de nous transmettre sa passion par justement l'énergie et la précision avec laquelle il nous en parle.
C'est l'idée de... On vous attend là, et il y a quelque chose là qui est là. Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de... Voilà, et puis constamment... de jouer avec l'attente, de la détourner. C'est ça aussi la comédie, et c'est ça le rire, c'est la surprise aussi. C'est un genre que j'adore, non pas parce que je suis obsédé par la comédie, mais c'est parce qu'il est profondément cinématographique et qui permet, ce que vous dites, l'ellipse, le moment où on arrête une scène alors qu'on croit qu'elle va se développer et on crée une frustration. Ça, c'est vraiment aussi cette élasticité, étirer une scène, la décomposer ou à peine l'esquisser et la quitter, c'est vraiment aussi l'idée qu'un film, avant d'être un rythme, c'est un mouvement, quoi. Et donc, c'est jouer avec ça, quoi.
Voilà, donc le deuxième petit thème qu'on aimerait bien développer après ce premier thème du plaisir physique de la comédie, c'est celui des petites légendes individuelles qu'on se raconte, qui est le grand sujet du film, qui est en fait l'histoire de nos histoires. Donc celles sur lesquelles on fait reposer tout notre petit espace intérieur, nos légendes individuelles, qui nous assurent sur nos deux pieds au quotidien. Et en fait, cet hommage amoureux à ces évasions de tous les jours peut finalement pleinement se faire qu'au prix de leur destruction furieuse, et c'est ce qui fait le propos du film. La flic se rend compte, par exemple, que l'homme avec qui elle a vécu des années lui mentait. L'innocent qui a été incarcéré décide de faire de l'imposture une réalité. Sa femme, vivant dans l'attente de leur retrouvaille depuis 8 ans, se rend compte que son compagnon n'est en fait plus du tout le garçon dont elle était amoureuse. Et un enfant, bercé depuis toujours par le récit fabuleux des exploits de son père, est contraint de s'adapter peu à peu aux désillusions de sa mère. Donc voilà, on a tout un panel de personnages qui sont un peu fragilisés et qui doivent remettre en question toutes leurs légendes sur lesquelles ils avaient un peu basé leur imaginaire et leur vie.
Oui, c'est pour ça que, pour Salvadori, ces histoires qu'on se raconte à soi-même, que les autres nous racontent, forment vraiment le tissu de nos existences. Et elles participent, en quelque sorte, à l'enchantement de notre quotidien. C'est aussi pour ça que le mensonge n'est pas dans le film une puissance mauvaise ou nocive. Pas du tout, c'est plutôt l'occasion de relancer encore et encore la croyance. D'où la présence dans le film de tous les masques, tous les costumes, les costumes SM notamment, tous ces jeux de portes aussi et de cloisons dans la mise en scène qu'on doit franchir pour aller vers l'autre ou au contraire pour fuir l'autre, mais également l'écriture de Salvadori, sa langue très particulière, ses dialogues très littéraires, eux aussi sont le lieu de la fiction des faux-semblants, et paradoxalement, en éloignant les personnages d'un langage banal, il leur rend la liberté de se définir par les mots.
Je sais qu'il y a une scène qui est réussie dans ce film, c'est le retrouvaille. Ces retrouvailles, on les articule autour d'une idée, c'est l'idée d'enchanter, de la possibilité d'enchanter son quotidien. Donc je pars, elle n'est pas prête, elle ne l'attend pas à cette heure-là, elle est en train de passer l'aspirateur, elle croit qu'il va arriver en fin de journée, etc. Il arrive plus tôt, et la surprise prend le pas sur l'émotion, et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et donc cette femme lui dit, ben, ressors, j'étais pas prête, je t'attends depuis 8 ans, j'étais pas prête, je t'en supplie, ressors et reviens. Déjà je trouve que c'est beau, et puis c'est cette idée que même si c'est pas, si ce qu'elle lui propose, ils ont tous les deux conscience que c'est un artifice, que c'est faux, et bien le sentiment que ça va créer, pour eux deux et pour le spectateur, c'est un sentiment vrai. C'est exactement ça aussi l'idée du cinéma et de la fiction.
Voilà, et pour finir, dernier point, dernier petit angle thématique sur le film. Le film brasse vraiment tout un panel de genres cinématographiques, avant tout la comédie burlesque, mais aussi le thriller, le drame aussi un peu. Cette palette de couleurs, de tons dans le film s'éprouve vraiment, et particulièrement à travers la musique, la bande originale. Donc on vous propose pour finir, et vous laisser là-dessus, un petit voyage dans les ambiances du film, à travers les musiques de Camille Bazbaz. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à très vite pour une nouvelle chronique.
Et tout de suite, on termine avec quelques conseils de sortie comme chaque semaine. Et le film qui sort cette semaine et que nous vous proposons d'aller voir s'appelle Frères de sang. C'est réalisé par Damiano et Fabio D'Innocenzo, c'est italien également, comme le film dont nous parlions tout à l'heure. Et ça se passe dans la banlieue de Rome, dans un tout autre registre. Nous avons Manolo et Mirko, deux inséparables qui vont au lycée, font de petits boulots. Et puis un soir, Mirko au volant renverse un piéton. Manolo lui fait prendre la fuite. L'occasion de leur vie, l'homme était recherché par un clan mafieux qui les embauche et c'est donc parti pour leur carrière criminelle. Un film donc sur ces deux jeunes pris dans la mafia qui sort cette semaine.
Ah oh, trova del modo per fatte tra.
Tu m'as sparato?
Sì, sì.
Eh? No.
Ti bacio da solo, eh?
A te già ti conosco.
Ciao.
Ciao.
L'événement cette semaine, c'est dans le cadre des Midnight Movies du Lumière Terreau et ça sera projeté samedi à 22h30. La séance sera présentée. De quoi s'agit-il ? Eh bien, du célèbre Predator de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. Pour les amateurs de ce genre de film à gros bras, le commando de force spéciale mené par le major Dutch Schaefer est engagé par la CIA pour sauver les survivants d'un crash d'hélicoptère au cœur d'une jungle d'Amérique centrale. Mais sur place, ils ne tardent pas à découvrir qu'ils sont pris en chasse par une mystérieuse créature invisible et la traque commence donc. Ça sera samedi, 22h30 aux Lumières Terreau. There's something out there waiting for us. And it ain't no man. If it bleeds, we can kill it. Alors, et au milieu des éclats de rire dans le studio, on passe à la ressortie cette semaine dans un genre tout différent, quoique au moins aussi talentueux, La Dame de Shanghai d'Orson Welles. Dans les derniers jours du best-of du festival Lumière, le film, donc ce grand moment du film noir sera projeté une dernière fois samedi également, mais à 19h15, où le personnage joué par Orson Welles, marin irlandais, sauve d'une agression, pardon. La belle Elsa, Rita Hayworth, et son mari, l'avocat Arthur Bannister, lui offrent un engagement sur son yacht pour une croisière qui risque d'un petit peu mal tourner. Ce film qui est surtout connu pour l'extraordinaire scène des miroirs qui le termine, enfin ou presque, est quand même un vrai monument à voir pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de le voir pendant le Festival Lumière. Il passe donc une dernière fois en salle ce samedi à l'Institut Lumière. These mirrors, it's difficult to tell. You are aiming at me, aren't you? I'm aiming at you, lover. Of course, killing you is killing myself. It's the same thing. But you know, I'm pretty tired of both of us. Enfin, comme chaque semaine, on retrouve Flavien Ponce des Cinémas Lumière pour son conseil de sortie.
Alors aujourd'hui, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est Voyage à Yoshino, qui est le nouveau film de Naomi Kawase. Naomi Kawase, c'est la réalisatrice de Shara, c'est la réalisatrice de Still the Water, des Délices de Tokyo, après lequel chaque spectateur qui l'a vu avait envie de manger des dorayaki. Voilà, c'est son nouveau film, à Naomi Kawase, le Voyage à Yoshino. Elle partage avec Kiyoshi Kurosawa et avec Hirokazu Koreeda cet entrain pour le cinéma français, pour les acteurs français notamment. Kiyoshi Kurosawa qui avait tourné avec Tarheim et Hirokazu Koreeda qui est en train de tourner avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, la même Juliette Binoche justement qui joue dans Voyage à Yoshino. Donc il y a comme ça une sorte d'entrain général pour les grands auteurs japonais contemporains auprès des acteurs français. C'est un film qui est brut, qui est en même temps très imaginatif, qui est extrêmement poétique et qui partage en tout ça ses qualités avec les haïkus, ce style de poésie très très court, très ramassé japonaise et dont le film a beaucoup des caractéristiques. C'est un film qui est comme Still the Water, un peu d'une certaine manière comme les Délices de Tokyo, qui est très connecté à la nature. Elle partage avec la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher ce rapport presque écologique à la pratique du cinéma. Je pense à notamment Heureux comme Lazaro, et ben Voyage à Yoshino comme Heureux comme Lazaro, c'est un film qui est très très proche de la nature et qui nous fait ressentir aussi ce que c'est d'être connecté aujourd'hui avec les arbres, avec le vent, avec les éléments tout simplement. Et tout ça, c'est une philosophie proprement japonaise, puisque c'est le propre du shintoïsme, la religion japonaise. Voilà, c'est un film qui est à la rencontre entre la France et le Japon, qui sera en avant-première aux Lumières Terreau le 19 novembre à 21h et qui sortira dans les salles le 28 novembre. Voilà. Okay, soldier. I'm coming out. Okay, soldier.
I got no gun and I'm coming out. Soldier!
D'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour ce 104e numéro avec cette semaine Mathilde Grasset, Occitane Lacurie, Thomas Brunel, Elie Rofast et Rémi Cerda. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau film, ce sera High Life de Claire Denis. D'ici la bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures.
I want you to calm down.